Le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Une attaque au couteau cette nuit à Birmingham a fait un mort et 7 blessés, dont 2 graves. La police recherche un suspect. Le centre-ville de Birmingham est bouclé. Nous rejoindrons Laura Calmus en début de journal. Le port du masque doit-il être obligatoire en extérieur? La question est posée ce matin au Conseil d'État. Les membres du Conseil d'État examinent une demande de l'État pour annuler les décisions des tribunaux administratifs de Lyon et Strasbourg. Ces tribunaux ont demandé la semaine dernière au préfet du Rhône et du Bas-Rhin d'assouplir les conditions du port du masque. Après les masques, nous parlerons des tests et du dépistage et des longues files d'attente devant les laboratoires de biologie médicale. Invité de ce journal, François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes. Et dans ce journal également, nous reviendrons sur la mort au combat hier au Mali de 2 soldats français de la force Barkhane, les universités d'été du Rassemblement national à Fréjus, et puis le Tour de France dans les Pyrénées, et Deauville avec Eva Bétan. La météo en fin de journal, entre pluie et éclaircie, nous dira Jean-Michel Golinski.
France Inter.
L'attaque au couteau la nuit dernière à Birmingham a donc fait un mort et 7 blessés, dont 2 graves. Un suspect est recherché. Un dispositif de sécurité a été mis en place. On rejoint Laura Calmus à Londres.
La police de West Midlands vient tout juste de s'exprimer et de donner plus de détails sur les attaques au couteau qui ont eu lieu hier soir aux alentours d'1h30 au centre de la ville de Birmingham. Une personne est morte, 7 autres ont été blessés, dont 2 dans un état grave. Il y a eu plusieurs attaques au couteau qui se sont passées dans un quartier très fréquenté où de nombreuses personnes étaient attablées aux terrasses des cafés et des pubs lorsque l'attaque s'est produite. La police n'a pour le moment procédé à l'arrestation d'aucun suspect qui serait toujours en fuite et pour le moment, il n'est absolument pas question d'une attaque terroriste. Les attaques au couteau sont très fréquentes au Royaume-Uni. C'est un mode opératoire très utilisé, notamment par les gangs. Ce sont très souvent des règlements de compte. Londres, Laura Calmus, France Inter.
En France, l'actualité à la mi-journée, c'est une audience importante au Conseil d'État. Le juge des référés examine aujourd'hui la demande de l'État d'annuler les décisions prises par les tribunaux administratifs de Lyon et Strasbourg. Ces tribunaux avaient demandé aux préfets du Rhône et du Bas-Rhin de modifier leurs arrêtés sur le port du masque obligatoire. Le masque pour tous, oui, mais pas partout et pas tout le temps. Alors le Conseil d'État va donc devoir se prononcer en direct du Palais Royal, le siège du Conseil d'État. On retrouve Jean-Philippe Degnaud. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Frédéric.
Et l'audience vient de se terminer.
Oui, avec d'un côté les défenseurs des libertés individuelles et de la proportionnalité, de l'autre les partisans de la très grande prudence. L'épidémie est extrêmement dynamique, plaide le représentant du ministère de la Santé. Les cas positifs sont en explosion et ce virus est une bombe à retardement. Et Charles Touboul admet qu'il faut frapper fort dans les esprits, que l'obligation du port du masque n'est comprise que si elle est relativement généralisée. Le maillage fin conduirait à l'impasse, à l'incompréhension, développe le ministère. Comparant cette mesure au code de la route qui s'impose à tout le monde, même si certaines limitations de vitesse sont davantage nécessaires sur quelques routes et pas sur d'autres. Pour l'avocat des médecins qui réclament des décrets beaucoup plus précis, le port du masque à l'extérieur n'est nécessaire qu'en cas de forte concentration humaine. Il n'y a qu'à communiquer, faire du marquage au sol par exemple pour l'expliquer. Et Maître Froger met en garde contre une généralisation du masque qui engendrerait de l'incompréhension et au final du rejet. Le Conseil d'État se donne quelques heures pour trancher le débat. Il rendra sa décision ce soir pour Strasbourg et demain matin pour Lyon et Villeurbanne.
Jean-Philippe Degnaud avec Éric Audra pour les moyens techniques. Merci. Le port du masque obligatoire est, on le sait, parfois contesté. Les règles sont-elles trop strictes? Martin Blachier, médecin épidémiologiste, estime que la question peut se poser pour le port du masque en extérieur. Martin Blachier.
En fait, ce qui est difficile avec le port du masque à l'extérieur, c'est qu'il n'est pas appuyé sur des preuves scientifiques très solides. Mmh. Et c'est vrai que la plupart des données qu'on a montrent qu'en extérieur, le risque est très faible. Et donc, les arguments sur lesquels repose le port du masque en extérieur, c'est l'argument de simplicité. Et c'est vrai qu'il est relativement discutable, en particulier sur le moyen long terme. On comprend mieux maintenant, et ça vient d'être publié d'ailleurs, les circonstances qui sont vraiment à risque. Et il y a beaucoup de circonstances qui ne sont pas à risque. Donc le port du masque, il va finalement se perfectionner. Et je pense par exemple que le masque en extérieur, c'est quelque chose qui ne va pas résister dans la durée.
Martin Blachier, médecin épidémiologiste avec Matteo Maestracci. Concernant la pandémie de coronavirus, 7 nouveaux départements passent en zone de circulation active du virus. Les 2 départements Corse, la Côte d'Or, le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime et la Réunion. 28 départements, dont 4 en Outre-mer, sont désormais classés en zone de circulation circulation active du virus. Et puis concernant la quatorzaine, la durée d'isolement des personnes infectées ou les cas contacts, le gouvernement envisage de réduire cette durée d'isolement. Un avis du conseil scientifique propose de la ramener à 7 jours au lieu des 2 semaines fixées au début de l'épidémie. Enfin, sachez que les enseignants de maternelle et les professeurs ayant dans leur classe des élèves malentendants seront bientôt équipés de masques inclusifs, ces masques transparents qui permettent de lire sur les lèvres. Plus de 100 000 masques seront fabriqués d'ici la fin du mois. Des masques lavables 25 fois, annonce de Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. L'autre question qui nous préoccupe, qui préoccupe beaucoup d'entre nous, c'est bien sûr les tests de dépistage. Alors Olivier Véran, ministre de la Santé, a affirmé hier que l'accès aux tests de dépistage sera facilité. Il faut que la situation s'améliore d'ici la fin du mois. Il n'empêche, les files d'attente continuent de s'allonger devant les laboratoires de biologie médicale. On ne sait plus très bien s'il faut prendre rendez-vous pour se faire dépister ou si l'on peut se rendre directement à son laboratoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut attendre plusieurs heures pour se faire dépister et parfois plusieurs jours pour avoir les résultats. Invité de ce journal, François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes. Bonjour monsieur Blanchecotte, bienvenue sur France Inter.
Bonjour à tout le monde.
Alors on a parlé de grand bazar du dépistage, d'embouteillage devant les laboratoires. Comment pouvez-vous améliorer la situation?
Alors l'amélioration peut se faire de deux manières très simples. En fait, on va essayer de réfléchir avec le cabinet du ministre pour avoir une priorisation, évidemment, comme on l'a dit, des tests symptomatiques. Quand vous êtes en contact avec un patient positif, évidemment, de rendre prioritairement dans les laboratoires de biologie médicale et peut-être de développer encore plus de centres ambulatoires avec une réflexion sur des tests plus rapides. Vous savez que souvent, on a parlé des tests salivaires. J'ai confirmation que l'étude sur 600 patients de Covisal allait bientôt avoir une conclusion. Et d'autre part, plusieurs firmes internationales ont commencé à développer des tests rapides en 15 minutes, simplement pour chercher l'antigène du virus.
Alors,
qu'il y a des pistes techniques, mais il y a aussi des pistes pour essayer de dépister le plus grand nombre, mais plutôt dans des constructions solides à l'extérieur, faire appel aux mairies, à tout ce qu'on a déjà fait pour l'instant, mais prévoir pour l'hiver que les gens puissent être à l'abri pour faire du dépistage en masse.
Alors vous parlez de tests ambulatoires, peut-être c'est ça, se rendre dans les universités pour dépister les étudiants notamment?
Tout à fait. Il y a une réflexion qui est posée, évidemment, et surtout d'avoir des publics ciblés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour les masques. Et je pense qu'on peut avoir la même réflexion pour les tests de biologie. Il faut cibler les publics. Il ne faut pas forcément dépister tout le monde au même moment, parce que ça reviendrait tous les 15 jours à faire la même chose pour tout le monde. Il faut vraiment essayer de cibler. Dans les étudiants, on a eu une réflexion, par exemple, avec la préfète de notre département, pour les publics fragiles, les résidents universitaires, ceux qui sont boursiers, qui n'ont pas forcément accès facilement à la santé. Et donc, il faut privilégier ces publics-là.
Alors, et les tests salivaires, François Blanchecotte, on en parle depuis le 10 août, ils arrivent quand? C'est plus simple, plus rapide que les tests nasopharyngés?
C'est-à-dire que c'est moins traumatisant pour la personne, puisque vous mettrez simplement un échovillon dans la bouche. Mais je vous dis, l'étude Covisal qui est en cours, j'ai encore eu confirmation ce matin par le cabinet du ministre, cette étude sur 600 patients va avoir ses résultats dans quelques jours. Donc je pense qu'on va avoir une réponse définitive de nos autorités scientifiques, parce que c'est ça qui compte aujourd'hui, c'est pas de dégrader la réponse, de mettre en doute le fait que vous ayez un positif ou négatif, il faut être sûr de quand même de son résultat.
Alors François Blanchecotte, ne pourrait-on pas proposer aux médecins du travail, dans les entreprises, de pratiquer des tests? Ça permettrait de soulager les laboratoires que vous représentez.
La question, c'est la technologie que vous mettez en place, si vous voulez. Quand vous prélevez quelqu'un, vous supposez par essence qu'il peut être positif, donc contaminant. Donc les tubes sur lesquels nous utilisons sont neutralisants, c'est-à-dire qu'ils neutralisent le virus. Et en plus, c'est une technologie de biologie moléculaire qui est utilisée après cela. Et donc c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui est réservé au laboratoire. Donc maintenant, les nouveaux tests qui arrivent, il faut voir de quelle manière ils peuvent être validés et il faut surtout penser qu'il ne faut pas dégrader la réponse de surveillance, c'est-à-dire le déclaratif, ce côté un peu administratif, pénible pour les laboratoires, mais qui vous a permis en tout cas de surveiller l'état des Français.
Alors au Canada, par exemple, le gouvernement canadien appelle des renforts et notamment des laboratoires de santé animale. Est-ce que c'est envisageable en France ?
Alors aujourd'hui, tous les laboratoires vétérinaires peuvent faire cette phase technique, hein, je vous le rappelle. Beaucoup de nos collègues dans des régions, on peut citer Bordeaux ou ailleurs, ont des conventions avec les laboratoires vétérinaires qui font la partie technique. La partie prélèvement, on sait qu'on l'a résolue, puisque dernièrement, il y a encore les messerschmitt thérapeutes qui ont été autorisés à prélever. Donc on a un grand panel de préleveurs. Maintenant, la phase technique peut être réalisée dans beaucoup d'endroits, que ce soit des unités INSERM, des unités de CNRS, toutes les personnes qui ont qualité à faire de la biologie moléculaire en France.
Mais le prélèvement, il y a quand même des files d'attente qui s'allongent, on le voit, on peut le constater tous les jours devant les laboratoires de biologie médicale. Si la stratégie du tester, tracer, isoler et prend beaucoup de temps, elle est remise en cause.
Non, moi, je n'ai pas votre avis là-dessus. Je partage pas la question. Le fait que, évidemment, beaucoup de gens et les files s'allongent, c'est parce qu'on a multiplié les publics pour lesquels on voulait solliciter ce dépistage. Il faut penser quand même qu'il y a des gens qui viennent des fois deux fois ou trois fois par semaine. Et ce sont les mêmes personnes. Souvent, des fois, des patients prennent deux ou trois laboratoires pour être sûr d'avoir une réponse dans des délais un peu plus brefs. On a vu tout ce qui est télévol et l'embolisation. Donc, on voit bien qu'il y a des moments où il nous manque effectivement le traitement technique. Ce traitement technique, il va être résolu dans les semaines qui viennent. On a des machines qui sont en commande dans le monde entier. Et donc, ça, je pense que c'est quelque chose qui va se résoudre. C'est vrai qu'on est tombé dans une période, comme vous le dites très bien, il y a quelques semaines, nous faisions 400, 500 000 tests et aujourd'hui, on a passé la barre des 1 million.
Un million de tests voilà. Par semaine. Merci voilà. François Blanchecotte, président du Syndicat national des biologistes. Merci.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
On l'a appris hier soir par un communiqué de l'Élysée. Deux soldats français sont morts au combat hier au Mali. Un troisième a été gravement blessé. Les soldats de la force Barkhane étaient en opération dans la région de Tessalit, dans le nord du Mali. Leur véhicule blindé a été détruit par un engin explosif improvisé. Une attaque revendiquée par une branche d'Al-Qaïda. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, était l'invité avant ce journal de questions politiques avec Ali Badou.
Il n'est pas question de lever la garde. Il y a eu deux morts et c'est tout à fait dommageable. Mais il y a eu aussi, au cours de ce semestre, des reconquêtes de territoire, en particulier dans la région que l'on appelle la région des trois frontières, c'est-à-dire dans la zone entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Des territoires sont revenus, si j'ose dire, à la vie civile. Des villageois sont retournés chez eux. La présence de l'État revient. C'est un long combat. J'ai toujours dit que c'était un long combat. C'est un combat difficile, d'autant plus que nous sommes dans une région grande comme l'Europe. Et que nous avons affaire à...
Quelques milliers de soldats pour une région grande comme l'Europe.
Oui, et donc nous avons affaire à des groupes djihadistes extrêmement volatiles, extrêmement agiles, mais nous progressons et nous sommes là pour défendre notre sécurité.
Alors ces derniers mois, l'armée française a multiplié les offensives aux frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dont parlait à l'instant Jean-Yves Le Drian. Mais la mort des deux soldats français intervient dans un contexte particulier, au moment où la situation sécuritaire reste confuse, après le coup d'État du 18 août au Mali, coup d'État lors duquel le président Keïta a été contraint au départ par la junte militaire. Claude Guibal.
L'attaque qui a coûté la vie hier à deux soldats français et blessé un troisième met cruellement le doigt sur un des principaux facteurs de la poussée terroriste au Sahel. Les djihadistes progressent toujours à la faveur de l'instabilité et du chaos politique qui leur ouvre des boulevards pour gagner du terrain. Le putsch qui a renversé le mois dernier le président Ibrahim Boubacar Keïta participe ainsi à ce contexte déstabilisé où nul ne sait encore très bien avec qui il faut discuter, négocier ou composer désormais. Le coup d'État a rebattu toutes les cartes. Ibrahim Boubacar Keïta a quitté le pouvoir et même le pays depuis la nuit dernière. Il est officiellement en route pour les Émirats Arabes Unis où il va suivre des soins de santé. La junte, elle, mène depuis hier un début de négociation pour la transition politique, mais ces négociations ont lieu sans l'ex-rébellion Touareg, pourtant incontournable dans l'équation malienne, et les forces de Barkhane, pourtant revivifiées par les succès remportés sur le terrain depuis le recadrage du sommet de Pau en janvier dernier, espèrent que ces progrès réalisés ne disparaîtront pas dans le tumulte de ce chaos malien que beaucoup redoutaient.
Claude Guibal. Merci. Un policier tunisien tué aujourd'hui à Sousse, dans l'est de la Tunisie, lors d'une attaque au couteau par des islamistes. Les trois terroristes ont été abattus par la police. Nouveau dimanche de contestation en Biélorussie, le cinquième consécutif contre le président Alexandre Loukachenko. Le président biélorusse reste inflexible. Retour en France avec les universités d'été du Rassemblement National à Fréjus. Marine Le Pen s'exprimera cet après-midi pour un discours de rentrée axé sur le thème de la sécurité. Français réveillés. voyez-vous ? C'est le slogan mis en avant par Marine Le Pen et le Rassemblement National. Marine Le Pen qui a également regardé hier du côté de Port-Marly dans les Yvelines, où les Républicains faisaient leur rentrée en ordre dispersé. Fréjus, Maxence Lambrec.
Sur le port de Fréjus, le navire RN reste à quai. Et pourtant, les réservoirs sont pleins, le carburant est là. L'insécurité, redevenue priorité des Français, le gouvernement s'en désintéresse, assure Marine Le Pen. La crise économique et sociale qui se dessine, la gauche qui se cherche un candidat commun et surtout la droite en plein brouillard. Nicolas Bay, député européen du RN.
Les Républicains, ils se sont surtout fait entendre ces derniers jours par les déclarations de Christian Estrosi qui a expliqué qu'il fallait se rallier purement et simplement à Emmanuel Macron. Et je pense que c'est toute la difficulté qui est la leur. La question, c'est pas François Baroin, Xavier Bertrand ou Christian Jacob. La question, c'est quelle est la différence politique majeure entre ces trois personnalités et Emmanuel Macron. Et il n'y en a absolument aucune, sur aucun sujet.
Les munitions sont donc au rendez-vous pour le discours de rentrée tout à l'heure, mais le moteur ronronne, le bateau ne bouge pas. Autour de Marine Le Pen, déjà candidate à l'Élysée, aucun enthousiasme ici. Les élections départementales et régionales du mois de mars paraissent loin. Des salariés du siège sont poussés vers la sortie pour faire des économies. Les fédérations somnolent, l'épidémie n'arrange rien. Personne ne monte donc à bord. Réveillez-vous, tonne Marine Le Pen, capitaine dans la tente.
Maxence Lambrec à Fréjus. Le Tour de France, le peloton poursuit son week-end dans les Pyrénées. 9e étape aujourd'hui entre Pau et La Reims avec 4 cols au programme. Sur la route du Tour, on retrouve Fanny Le Chevestrier. Bonjour Fanny.
Bonjour Frédéric.
Alors depuis hier, on sait que Thibaut Pinot a abandonné tout espoir de gagner le Tour. Quelles sont les chances françaises d'accrocher un podium ?
Eh bien, il y en a deux, il y en a encore, hein, il faut pas désespérer. Il y a déjà Guillaume Martin, vous savez, c'est le coureur dont on ne parle pas trop, le leader de l'équipe Cofidis, le Normand de 27 ans, 12e hein, déjà du Tour de France l'an dernier. Et là, eh bien, il est sur la troisième marche pour l'instant du podium, à 9 secondes seulement du maillot jaune d'Adam Yates. Alors pourquoi pas espérer et le voir prendre le maillot ce soir à l'arrivée. Il faudra également surveiller Romain Bardet qui est 4e. Il a grappillé 2 petites secondes, ça paraît peu, mais il n'est qu'à 11 secondes. Lui aussi d'Adam Yates. Et attention, on va surveiller quand même parce qu'hier, il nous a dit qu'il s'était fait mal au genou lors d'une chute. On va regarder donc si ça passe pour aujourd'hui. Et puis, il n'y a pas que le général. On pourrait revoir les Français également sur des victoires d'étape. On pense dès aujourd'hui à Julien, à la Philippe. On l'a vu, hein, il a tenté d'attaquer dès le début de l'étape. Ça n'a pas marché pour l'instant, mais c'est pas fini. Et puis, Thibaut Pinot, voilà l'info de la mi-journée, c'est qu'il est au départ aujourd'hui. Il a pris le départ de cette 9e étape. Et s'il l'a pris, on se dit que s'il tient encore, on pourra le revoir dans les deux prochaines semaines, notamment dans les Alpes, pour pourquoi pas signer une victoire.
Merci Fanny Le Chevestrier avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. En football, je vous rappelle la victoire de l'équipe de France 1-0 face à la Suède en Ligue des Nations hier soir, but de Kylian Mbappé. Et puis ce soir, Malte reçoit la Lettonie, toujours en Ligue des Nations. Je vous en parle parce que la rencontre sera arbitrée par la Française Stéphanie Frappard. C'est la première fois qu'une femme arbitre un match international masculin. Direction Deauville pour le festival du film américain avec aujourd'hui un documentaire qui a retenu toute votre attention. Eva Bétan, bonjour Eva.
Bonjour.
Alors un documentaire sur Billie Holiday, considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de jazz que le jazz ait connu. Ce documentaire de James Erskine nous propose, Eva, des archives sonores exceptionnelles.
Oui, alors on entend parler de Billie Holiday, on entend Tony Bennett, Count Basie, ses amis d'enfance, mais aussi des agents du FBI qui l'ont arrêté pour drogue. C'est des documents inédits qui proviennent du travail d'une journaliste, Linda Lipnacuel, à la fin des années 60, en vue d'une grande biographie qu'elle n'a en fait jamais écrite. Elle avait enregistré toutes ces personnes-là. Des intervenants vont confirmer, oui, dans la vie de Billie Holiday, il y a eu la prostitution à 13 ans, la drogue, les amants brutaux, mais il y a beaucoup plus que cette légende noire, une forte personnalité. Elle aimait les hommes autant que les femmes, une pionnière, une voix qui s'est imposée vite. Elle commence mineure dans les petits clubs. Elle a 22 ans seulement quand elle rejoint l'orchestre de Count Basie. Une pionnière parce qu'elle est la première noire à faire partie d'un orchestre blanc, ce qui était interdit à l'époque. Elle va faire partie de l'orchestre d'Artie Shaw et... Comme l'explique James Erskine, elle a subi la ségrégation raciale, frontalement, par exemple en tournée. Souvent en tournée avec Artie Shaw, elle n'était pas acceptée dans les hôtels et elle dormait dans le bus alors qu'elle était la star. Elle ne pouvait pas manger dans les mêmes restaurants. Un des musiciens blancs raconte, une fois, ils avaient pu déjeuner dans un restaurant ensemble et Billie avait commandé 2 hamburgers. Elle en avait mis un dans son sac car elle ne savait pas si le prochain restaurant l'accepterait. Alors qu'elle était une star, en effet, son indignation contre le racisme s'est incarnée en chansons, notamment avec Strange Fruit. C'est une protest song qui parle des Noirs pendus dans le sud des États-Unis. Elle la chante en 39 pour la première fois au Café Society. Une partie du public blanc quitte la salle, elle la rechantera. Le FBI va la traquer officiellement pour possession de drogue, pas seulement.
Southern trees bear strange fruit.
La voix de Billie Holiday. Merci Eva Bétan, vous nous avez donné envie d'aller voir ce documentaire. Merci. La météo de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Entre pluie et éclaircie, Jean-Michel Golinski.
Aujourd'hui, seul le bassin méditerranéen va conserver des valeurs comparables à celles d'hier, avec 31 degrés à Montpellier et à Toulon, 30 à Nîmes, 28 sur la Corse. Des températures souvent plus basses qu'hier sur les autres régions, de l'ordre de 24 au maximum en Rhône-Alpes et près de la Garonne, 21 sur une ligne Nantes-Paris-Strasbourg et 17 à 19 degrés plus près de la Manche, avec dans l'ensemble un ciel variable cet après-midi. À noter un faible risque d'ondées au nord de la Loire et sur les Alpes. Près des Pyrénées, le gris va se maintenir avec parfois de la bruine et en fin d'après-midi de l'orage sur l'est de la chaîne. Enfin, le franc soleil sera pour le bassin méditerranéen, mais avec du vent à 70 km à l'heure pour le Mistral et la Tramontane. Demain, les températures vont un peu remonter avec à nouveau un ciel souvent variable, plus dégagé mais avec du vent du golfe du Lion à la vallée du Rhône et le retour d'averses orageuses entre les Alpes et la montagne corse.